Le philosophe Bernard Stiegler est notre invité ce matin. Vous êtes directeur de l'IRCAM. Vous publiez « Mécréance et discrédit » chez Galilée, une exploration de la vie démocratique à l'heure de la révolution numérique. Juste avant le journal de Mathieu Laurent, Bernard Stiegler, vous nous parliez de cet appel, de ce cri du cœur ou de cette analyse très cynique, selon analyse de Patrick Lelay sur ce qu'est la télévision, sur ce qu'est son métier à la tête de cette gigantesque entreprise qui est TF1. Vous parliez aussi de ce désir, de cette dilution, de la singularité du désir à l'ère du capitalisme numérique. Peut-être une question sur ces nouvelles manières dont nous appréhendons la création, sur cette démocratisation apparente de la création grâce à ces nouveaux outils. Est-ce que vous partagez ce constat qu'aujourd'hui, il est plus facile d'avoir accès à l'art grâce à toutes ces manières de s'approprier les outils de la création, si l'on songe à l'ordinateur, si l'on songe à l'appareil photo numérique, si l'on songe aussi, pourquoi pas, à la télévision?
Mais je crois que ces technologies permettent évidemment que se développent des pratiques culturelles, artistiques, tout à fait nouvelles, mais je crois qu'aujourd'hui elles ne sont absolument pas du tout orientées dans ce sens-là. Et c'est l'objet de mon livre, c'est de précisément critiquer. De quoi parle ce livre? Il parle d'abord d'un phénomène de décadence de la société démocratique et industrielle. De décadence, je pèse mon mot.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au déclin, vous parlez vraiment de décadence.
Je parle de décadence parce que je crois que précisément, si le 13 juin a eu lieu ce scandale qui tient au fait que 57% des Européens ne sont pas allés voter, c'est parce qu'il n'y a pas de politique européenne. Et il n'y a pas de politique européenne pour inventer un nouveau modèle industriel. La thèse que je développe dans ce livre, c'est que nous vivons une énorme transformation technologique qui ne cesse de dérouler des effets toujours plus complexes. Je ne parle même pas là de la biotechnologie, mais restons-en à ces technologies de communication. Il n'y a pas aucune prise de conscience, aucun discours de la part des puissances publiques sur cette transformation. Et face à cela, il y a par ailleurs un phénomène de décadence, véritablement, dont il y a des signes partout. Un processus d'avilissement. Je pèse mes mots. Patrick Lelay déclare que le réalisme, c'est de dire que TF1 est là pour vendre du temps de cerveau disponible. Alors, beaucoup de gens se sont scandalisés comme s'ils révélaient tout à coup un truc incroyable. Mais enfin, c'est une évidence. Simplement, il est incroyable que les pouvoirs publics et les industriels ne voient pas que cette évidence conduit dans un mur. Pourquoi est-ce que ça conduit dans un mur? Pourquoi est-ce que c'est un processus de décadence? Parce que cela produit de la frustration, fondamentalement. Il y a eu, au cours de l'année écoulée, une quantité incroyable de passages à l'acte, complètement délirants, de comportements totalement irrationnels, et qui tiennent au fait que cette société-là produit de la misère, ce que j'ai appelé de la misère symbolique dans un autre livre. Mais ça produit aussi du discrédit et de la démotivation. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme hyper-industriel? C'est un capitalisme qui supprime les possibilités de l'existence pour les rabattre sur les impératifs de la subsistance. Ce que je veux dire par là, c'est que un être humain, c'est un être qui essentiellement vise non pas simplement à se nourrir, à accéder à de l'eau, à se reproduire. C'est pas un animal, c'est pas un porc, comme disait Gilles Châtelet, qui avait écrit ce livre au titre si stupéfiant et si juste, vivre et penser comme des porcs. L'homme est un être qui veut exister. Exister, ça n'est pas subsister. La subsistance, c'est ce qui est de l'ordre des obligations de la reconstitution de soi, de sa capacité à recommencer à aller travailler le lendemain matin, etc. Mais l'existence, c'est autre chose. L'existence, c'est l'existence symbolique. Et cette existence symbolique, elle peut avoir des formes extraordinairement reconnues, parfois avec beaucoup d'après-coup, comme Van Gogh, qui aujourd'hui est reconnu comme un des sommets de l'existence symbolique. N'oublions jamais qu'à l'époque de sa vie, il était dans la misère absolue, il n'était pas du tout reconnu. Mais l'existence, ça peut être aussi tout simplement élever ses enfants, ça peut être transmettre quelque chose de singulier à quelqu'un de singulier. On sait bien aujourd'hui qu'il y a d'énormes problèmes, par exemple, en termes de relations entre les parents et les enfants. On sait bien que l'autorité parentale est très largement détruite, tout comme l'autorité des profs est très largement détruite. Etc. À quoi est-ce que ça tient? Ça tient au fait que les modèles qui sont mis en œuvre massivement, là encore par TF1 avec Star Academy par exemple, il y avait un article dans Le Monde la semaine dernière qui est quand même terrible et dont il faut analyser en détail les propos, à savoir qu'aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants ne pensent plus qu'à Star Academy. Mais c'est l'indice de quoi, ça? C'est l'indice du fait que ils vivent dans une société où il n'y a plus aucune motivation qui leur est proposée et qui soit digne de... Enfin, qui les élève un petit peu au-dessus d'eux-mêmes.
Pourtant, on pourrait y voir aussi une forme de vouloir accès à l'art. Ou en tout cas à la pratique artistique. Vous n'y croyez absolument pas à cette hypothèse, à cette détermination de la Star Academy?
Mais bien sûr que non. J'y vois tout simplement l'expression d'une grande souffrance, d'un manque de reconnaissance, à commencer par la reconnaissance de soi, par soi, de ses proches, etc. J'y vois ce que j'appelle une misère symbolique, et pas du tout. Non, c'est un processus mimétique. Alors après, si vous voulez dire, et c'est peut-être ce que vous vouliez dire en effet, que face à cela, il y a un désir d'expression. Il y a un désir d'existence, précisément, par l'expression artistique. Oui, là, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que ce désir, loin d'être satisfait, est transformé en un pur fantasme et ne conduit pas à des pratiques musicales ou à des choses comme ça. Non, il conduit à une spectacularisation et à une tromperie qui est absolument accablante. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous vivons une époque où l'existence des individus est rabattue progressivement sur les impératifs de la subsistance. Je dis qu'elle est rabattue, cette existence, parce que l'existence des individus consiste dans des savoir-vivre. Et exister, c'est mettre en œuvre des savoir-vivre, et des savoir-vivre qui sont singuliers par nature. De même qu'au XIXe siècle, l'ouvrier a été transformé en prolétaire parce que son savoir-faire a été exproprié et passé du côté de la machine, aujourd'hui, le consommateur est en train de se prolétariser, parce que son savoir-vivre passe du côté du marketing. C'est le marketing qui définit le savoir-vivre, c'est plus le consommateur. Ce n'est plus le consommateur qui est à l'origine de ses propres savoir-vivre, il ne fait qu'imiter des modes de vie qui sont plus des modes de vie, qui sont des modes de subsistance en réalité, des modes de consommation, et il est privé de ses modes d'existence. Et à partir de là, il est dans la déception, il est dans la démotivation, moi j'appelle ça l'irrationalité, parce que raison veut dire motif. Et je pose dans ce livre que le capitalisme est au bord d'un effondrement et qu'il faut l'empêcher de se détruire, qu'il faut lutter contre l'autodestruction du capitalisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme exploite cette économie libidinale dont Freud avait fait la théorie au début du XXe siècle, mais il l'exploite comme il exploite des champs de pétrole, comme il exploite des réserves de charbon, comme il exploite des terres arables, etc. C'est-à-dire qu'il les épuise. Il est en train d'épuiser l'économie libidinale. Or, le capitalisme ne marche qu'à la libido. Et cela donne, finalement, un processus que j'appelle de mécréance.
Alors voilà, concept central, mécréance, et notamment une mécréance politique, Bernard Stiegler. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Politique et économique. Politique et économique. C'est-à-dire que moi, je veux revenir à ce que j'appelle une économie politique. Je ne crois pas qu'on puisse séparer l'économique du politique. Je pense qu'il faut les distinguer absolument, mais je ne crois pas qu'on puisse les séparer. Je veux dire par là que ce qui fait que le capitalisme fonctionne, c'est qu'il s'accorde du crédit. Or, le crédit suppose une croyance. Je suis revenu sur les analyses de Max Weber, qui au début du XXe siècle proposait une analyse du capitalisme différente de celle du marxisme. Elle n'est pas incompatible, mais elle est très différente. Ce qui est très intéressant, c'est d'articuler ces deux analyses. Max Weber expliquait que le capitalisme, celui dont il parle, qui est le tout début du capitalisme, à savoir le capitalisme américain au XVIIIe siècle, il prend l'exemple de la Pennsylvanie, consiste essentiellement à capter la croyance des individus pour la transformer en confiance. Pourquoi? Parce que le capitaliste, le premier, le proto-capitaliste, on pourrait l'appeler, c'est celui qui comprend que le problème, c'est de constituer des marchés. C'est de capter la confiance d'acheteurs et de mettre ces acheteurs, ces clients, qui vont devenir ce qu'on va appeler au XXe siècle des consommateurs, en relation avec des producteurs. Et le capitaliste, c'est celui qui va dire aux producteurs, adaptez-vous aux demandes de vos clients que je vous apporte, et qui va dire aux clients, adaptez-vous aux propositions des producteurs. Le capitalisme, c'est ce qui va organiser la relation entre la production et la consommation. Mais pour organiser cette relation entre la production et la consommation, le capitalisme va progressivement substituer au processus de croyance un processus de confiance, c'est-à-dire qu'il va rendre cela calculable. Et là, il y a des commentaires de Max Weber qui sont particulièrement stupéfiants et éclairants, de sermons, comme on les appelle, de Benjamin Franklin, qui explique que être un bon protestant, c'est être capable de traduire en dollars, c'est-à-dire de rendre quantifiable et calculable la croyance qu'on a en Dieu.
D'où la devise qu'il y a sur les dollars américains, « In God we trust ».«
In God we trust » et non pas « In God we believe ». Comment se fait-il que les Américains, pour croire en Dieu, disent pas « believe », ce qui est normalement le verbe consacré, mais « trust ». Et comment se fait-il que le mot « trust » veuille dire à la fois la confiance et l'organisation hégémonique monopolistique des grandes compagnies internationales qui sont la plupart du temps américaines. C'est sur cette question que je travaille et j'essaye de montrer que cette transformation de la croyance en confiance consiste à transformer ce en quoi on croit en quelque chose de calculable. Or, ce en quoi on croit n'est pas calculable. Si on croit en quelque chose, c'est parce que cette chose n'existe pas. Croire en Dieu, par exemple, c'est croire en quelque chose qui n'existe pas, qui en tout cas n'existe pas comme la tasse qui est devant moi existe, ou comme ce micro existe, mais qui, si jamais ça existe, est sur un mode que j'appelle moi la consistance, et non pas l'existence. Mais ce qui est vrai de Dieu, est vrai aussi de l'objet de désir en général, est vrai aussi de l'idée, par exemple l'idée mathématique, ou l'idée de justice. La justice, ça n'existe pas. Vous savez bien que ça n'existe pas.
Malheureusement.
Mais en même temps, ce qui est magnifique dans l'idée de justice, c'est que bien que la justice n'existe pas, ça ne nous empêche pas de continuer à y croire. En tout cas, moi je pose qu'une une personne qui dirait que puisque la justice n'existe pas, je vais être injuste, serait une personne qui poserait problème sur le plan social. Pourquoi est-ce que il en va ainsi? C'est parce que la différence qu'il y a entre la subsistance et l'existence dont je parlais tout à l'heure, le fait que l'homme n'est pas simplement sur le plan de la subsistance, mais est toujours sur un autre plan qui est le plan de l'existence, renvoie à ce que j'appelle un troisième plan, qui est le plan de la consistance. Nous vivons, nous les hommes, pour nous investir dans des choses qui n'existent pas et qui sont notre avenir. Qu'on appelle ça Dieu, la justice ou autrement, est un autre problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de ruiner la différence qui existe entre la consistance, l'existence et la subsistance, et nous sommes en train de détruire la croyance, et donc de développer une société de discrédit.
On poursuit notre entretien dans quelques minutes, Bernard Stiegler.